Bonjour à tous et bienvenue pour cette loi des séries. Vous le savez depuis la rentrée, une nouvelle formule, 26 minutes de face à face avec une personnalité qui fait le monde des séries. Et cette semaine, on s'intéresse à un grand nom de la télévision américaine. Ça tombe bien, l'une de ces séries sort en coffret chez Elephant, c'est Le Rebelle. On se replonge dans le dimanche après-midi. Le Rebelle en Blu-ray chez Elephant, c'est ça, regardez.
Il était flic, il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
Merci aux équipes d'Elephant, évidemment, pour ce montage. Petite correction, évidemment, ça sort en DVD, non pas en Blu-ray. Il fallait compter sur la présence de notre invité, qui est un auteur français de série, qui a créé notamment Le Code, Sheriff, ou encore La Manière Forte, dernièrement sur France Télévisions. Amoureux invétéré des séries américaines, et notamment de Stephen J. Cannell. Je ne pouvais pas ne pas faire appel à ses connaissances pour nous parler de ce grand producteur et scénariste américain. Bonjour Lionel Olanga.
Bonjour Alexandre.
Comment ça va?
Merci pour l'invitation. Hey. Très bien. Écoute.
Je t'accueille bien, hein. Stephen J. Cannell.
Ah, écoute.
Oui. Ça ne pouvait pas rêver mieux. Un mot quand même, je vais dire, sur Le Rebelle. Cette série donc, qui passait dimanche après-midi sur TF1, c'était après Walker Texas Rangers.
C'est ça.
Une espèce de relecture alors, à la fois du western traditionnel en mode moto et ouest américain quand même. Et puis un petit peu du fugitif aussi. Il y a un petit peu de ça dedans, dans cette série finalement, qui est intéressant.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment le double. Quand il lance Le Rebelle, il a cette idée de faire un néo-western. Le western est complètement abandonné. Lui, il a grandi à une période où il y en a partout, il y en avait trop. Et il se dit comment on peut faire un western, c'est-à-dire le côté Lone Ranger, le chasseur de primes. Enfin, il reprend vraiment son meilleur ami, c'est un Indien. Enfin, il reprend vraiment les éléments typiques classiques du western.
Notamment Lone Ranger, comme tu le disais, dans lequel il y a effectivement son comparse.
Et il y ajoute la petite touche fugitif avec ce flic qui le traque et qui l'a piégé, là, en plus, pour l'occasion, et qui est interprété par le grand Cannell lui-même.
Le grand Cannell, Dutch Dixon, qui est le méchant de cette série, qui est joué par Cannell. Et alors, si on poursuivait la métaphore pour filer l'univers Cannell, je dirais que qui a interprété le Lone Ranger au cinéma, c'est Johnny Depp.
Johnny Depp, ouais.
Et évidemment que l'on connaît bien.
Je crois qu'il jouait l'Indien, même.
Il jouait l'Indien, oui, tu as raison.
Il
jouait l'Indien, tu as raison. Mais revenons à donc le Rebelle qui sort, donc les 5 saisons sortent en DVD chez Elephant. Elephant qui s'est mis depuis quelques années à sortir le travail de Cannell à la télévision. $200 plus les frais est sorti. Riptide, c'est l'avant-dernière sortie que j'étais ravi d'avoir parce que qu'est-ce que je l'ai bouffé sur la 5 avec notamment Joe Penny. D'ailleurs, j'en profite, hein, si vous voulez sortir un jour La Loi et la Loi, c'est pour moi, allez-y, avec William Conrad. Et ce DVD, ce coffret qui est magnifique, Digipack, parce qu'avec un fourreau un peu particulier, vous le voyez, un très très beau livret et des photos de l'univers du Rebelle. Voilà, redécouvrez ces 5 saisons de cette série créée par Stephen J. Cannell. Mais revenons à revenons à Cannell, parce que c'est une signature importante de la télévision américaine, en tout cas d'une partie de la télévision américaine. Ça représente quoi, Stephen J. Cannell, pour toi?
Bah, plusieurs choses. J'ai vraiment grandi avec les séries de Canal. C'est-à-dire que y avait même, je crois, sur TF1, des moments où plusieurs séries de Canal s'enchaînaient. Et les séries de Canal, elles ont ce truc. On les reconnaît, on voit là derrière
On va le voir
la
tout à l'heure.
machine à écrire. Pardon, on va voir
Bon,
tout
on
à
va le voir tout
l'heure.
à l'heure avec le logo
Ce
Canal,
logo
évidemment.
qui est dingue et qui fait que c'est le premier producteur de séries télévisées clairement identifié. Parce que, ben voilà, on le voit à la fin de toutes ces séries. Et quand tu parles avec des gens, tu dis Stéphane G. Canal, je ne sais pas trop qui c'est. Tu dis, mais si, si, c'est le mec qui tape à la machine, qui lance sa feuille, tout ça. Et moi, c'était un rêve de gosse de me dire un jour, peut-être j'arriverai à faire des séries et je me voyais très bien lancer une feuille en haut. Enfin, bref.
Et évidemment, tu as grandi, et notamment avec 200 dollars plus les frais, par exemple. Tu
Alors,
n'as pas grandi avec, parce que tu n'es
non.
pas aussi vieux que ça, finalement.
Non, c'est pas ça, c'est que là, si, si, je suis très vieux, mais c'est que la série a été diffusée très tard, en fait, notamment sur la 5. Et en fait, j'ai découvert 200 dollars plus les frais bien après Riptide, Juger le pilote, Hunter et toutes ces séries. Et 200 dollars plus les frais, c'est vraiment une série importante dans la carrière de Canal parce que c'est celle où il va vraiment gagner en notoriété. Avant, il a fait d'autres choses, et notamment une série assez obscure, je sais même pas si ça a été diffusée chez nous, qui s'appelait Adam 12.
Ah, ça me dit
Bon, c'est une
rien.
espèce de. C'est un 26 minutes procédural sur des flics. C'est peut-être passé, mais bon, bref. C'est pas une série qui, de toute façon, connaissait un énorme succès. Et il a fait d'autres choses avec Roy Huggins. Mais leur grand coup de maître, c'est 200 dollars
Roy
plus les
Higgins,
frais
qui
qui.
était le créateur de la série avec James Garner, qui était Maverick.
Exactement. Et en fait, quand l'histoire de la création de 200 dollars plus les frais de Rockford Files est trop longue à raconter ici, mais elle est vraiment incroyable. Toujours est-il que quand Canal écrit ce pilote, Roy Huggins lui dit, mais en fait, tu as écrit une version moderne de Maverick. Et donc, un personnage qui va marquer et vraiment influencer toutes les séries de détectives à venir. C'est-à-dire que sans Rockford Files, je pense qu'il n'y a pas de Magnum, il n'y a pas toutes ces séries qui vont nous marquer ensuite. Parce qu'il prend le contre-pied, Canal, de toutes les séries qui existent. C'est un détective qui, si le chèque qu'on lui a donné pour bosser,
De 200 dollars par jour plus les frais.
200 dollars par jour plus les frais, si le chèque est en bois, il va pas bosser. Si on le menace d'une arme, il quitte, enfin il arrête, il abandonne, il a de la famille, enfin il joue vraiment avec les codes et il réinvente en fait la série de détectives.
Alors il y en a eu beaucoup, tu l'as dit effectivement. Rockford Files a été évidemment la toute première qui a été un gros succès. Il y a eu énormément de séries plus ou moins connues de Stéphane G. Canel. Il a fait partie de ces grands producteurs des années 70, 80. Et 90 finalement à être connu. On peut citer à ses côtés évidemment Boschko, on peut citer Kelley aussi, et Pierre Spelling dans un autre registre. C'est un peu les quatre de l'apocalypse télévisuelle qui ont donné lieu finalement à une télévision ultra ultra populaire, et dans le cas de Canal beaucoup plus fine d'ailleurs que du simple entre guillemets divertissement, ce qui est déjà très compliqué à faire.
Ouais, c'est un type qui. Parce qu'en fait, son plus gros succès, c'est l'Agence Tourisque. C'est pas la série la plus révolutionnaire, même si quand on s'intéresse au type de personnage que ça met en avant, c'est pas le classique leading man de série, c'est pas le personnage principal classique. On a quand même un fou furieux, on a Barracuda qui ressemble à tout sauf un héros de série comme ça existait en ces années-là. On a le futé qui lui est un arnaqueur. C'est peut-être celui qui est le plus facile à vendre d'un point de vue audience. Et puis on a Hannibal Smith qui est le chef du groupe, qui est
Georges
complètement
Peppard.
George Peppard, qui est complètement déjanté et qui ne prendra jamais la ligne droite, mais mettra tout le monde en danger. Enfin, et c'est l'alchimie entre ces personnages-là. Et je pense que la force des séries de Canal, c'est l'alchimie entre les personnages. C'est là où il est le plus fort, en fait.
Est-ce que finalement, et on voit ce look, franchement, ce physique incroyable de Canal, on a, je crois, d'autres photos qui vont circuler derrière de Canal pour voir, parce que il a quand même, voilà, cette. Là, c'est le Canal un peu plus
Ouais.
âgé, mais qu'est-ce qu'on aimerait être dans cette bibliothèque et d'aller voir ce qui s'y cache et ce qui s'y trame. Finalement, Canal, il a travaillé beaucoup sur la relecture de choses. Finalement, il réinvente le western moderne. L'Agence Touriste, on pourrait voir ça comme une espèce de relecture de Mission Impossible, finalement, quelque part,
Ouais, mixé
de
avec les sept
façon
mercenaires, oui.
mixée avec les 7 mercenaires, un peu de MacGyver aussi au milieu. Mais c'est intéressant, là, cette façon dont il retravaille les mythes fondateurs de la télévision, voire du cinéma aussi, quelque part.
Ouais, c'est un type qui. Et en fait, il y a une très longue interview, tu sais, je te l'ai partagée. Et je crois qu'une des clés à comprendre, c'est de là où il vient. En fait, c'est un type qui est dyslexique. lourdement dyslexique et qui va avoir une scolarité très très difficile, où il a redoublé 3 fois, enfin, il s'est fait virer de pas mal d'écoles parce que soi-disant il n'avait pas le niveau, et en fait la dyslexie à l'époque c'était pas identifié comme tel, et il le dit lui-même, il dit même aujourd'hui, enfin, à l'époque où il fait l'interview, il a toute cette carrière, tout ce truc, il dit je suis toujours ce petit gars en fait, et 200 $ plus les frais, quand il dit j'invente un personnage qui me ressemble, c'est typique de quelque part ce qu'il va réussir à faire un petit peu à chaque fois. C'est-à-dire que
des personnages à la marge.
Oui, toujours à la marge du système.
C'est pas des flics, il dit. C'est jamais, quasiment jamais des flics.
Et même quand c'est des flics eux-mêmes en marge du système. Mais quand il dit pour 200 $, quand il dit voilà, si moi je suis détective et qu'on me menace d'une arme, j'abandonne. Je veux dire, voilà, j'insiste pas. Et puis après, l'histoire fait que je suis obligé d'y retourner. Et donc, il joue vachement là-dessus. Et il y a toujours un peu de canal dans ces personnages.
Et c'est vrai que ces personnages sont en marge. Le détective privé, évidemment, qui a une grande tradition avec Philippe Marlowe aux États-Unis, Mike Hammer, évidemment. Mais là encore, c'est jamais le détective privé tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que dans Rockford Files, c'est le mec un peu décontracté avec sa petite veste en cuir et son pantalon sans cravate, sans rien. Dans Riptide, ils sont carrément en short. Et dans l'agence touriste, c'est des anciens du Vietnam, en marge de la société, poursuivis pour trahison. Et tu parlais tout à l'heure même des flics en marge. Quand il fait des flics, c'est... C'est des flics infiltrés dans la
Hunter,
mafia.
C'est Wise Guy.
Et c'est Wise Guy.
Dans la mafia,
ouais. Hunter, c'est là encore, on parlait de relecture. Relecture peut-être de figures comme les polars de Bronson ou de
l'inspecteur Clint Eastwood. Clint Eastwood. Mm-hmm. Oui, avec ensuite rapidement. Hunter, c'est intéressant parce qu'il y a une première saison qui est très formatée et qui ensuite, dès la saison 2, lui fait revenir Roy Huggins à la production exécutive. Parce que comme à l'époque, il a, je crois, 6 séries en même temps.
C'est considérable, c'est...
C'est incroyable.
Il n'y a que Greg Berlanti.
J'allais te le dire. C'est le seul qui a autant de séries en même temps. Et donc, il redébauche Roy Huggins, qui est à la retraite, pour s'occuper d'Hunter. Et lui, il va reformater un petit peu tout ça, s'éloigner du côté d'Dirty Harry pour faire ce binôme de flics, cette série qui va durer, je crois, 7 saisons.
Hein. 7 saisons et 3 partenaires, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait.
3 partenaires. Et évidemment, Canal, c'est les séries qu'il produit, c'est aussi les séries sur lesquelles il collabore et sur lesquelles il est peut-être moins partie prenante. Mais en tout cas, ces séries-là, elles ont cette spécificité, c'est qu'elles sont assez feel-good, finalement. C'est-à-dire qu'il ne se prend jamais au sérieux dans son traitement de séries.
Il y a parfois des petites touches dans certains épisodes, mais très globalement, on est dans une télé de divertissement, comme elle a pu se faire. D'ailleurs, le moment où il sort Le Rebelle, je crois que c'est 91 ou 92, j'ai pas la date, faudrait vérifier, mais
je crois même que c'est 93.
Tu vois, 93, c'est l'année d'NYPD Blue.
Ouais.
On est à un an d'urgence, donc on est vraiment, lui, il veut revenir justement à quelque chose de très manichéen parce qu'il sent ce glissement vers les zones grises et il a envie d'offrir, et quoi de mieux que le western pour poser des personnages aussi aussi archétypaux. Une série comme Le Rebelle, en fait.
1992, Sherby.
90. Ouais, non, mais voilà, c'est ces eaux-là, en fait.
Mais même dans les années 80, au même moment où la télévision de Canal, mais je pense à celle de Glenn Larson ou de ses auteurs arrivent, il y a la fameuse Quality TV qui débarque avec Hill Street Blues de Stephen Boschko, La Loi de Los Angeles derrière, Clair de Lune, Twin Peaks qui arrive. Une autre façon de faire de la télévision. Alors, Clair de Lune est un peu plus proche de...
Lui, il participera de cette Quality TV avec Wise Guy.
Oui.
Un flic dans la mafia, c'est une série qu'il va mettre très longtemps à vendre, alors qu'il est déjà à l'apogée de sa carrière. Mais ça se heurte à un principe simple.
C'est un petit bijou.
Qui est vraiment un bijou. J'espère qu'un jour ça sortira. D'ailleurs, si je dois passer un message.
C'est le projet d'éléphant, mais.
Ça, ce serait incroyable. C'est vraiment une série à redécouvrir, dans le sens où c'est la première fois qu'on casse le côté épisode bouclé. Et donc, chaque fois qu'il va dans une chaîne et qu'il explique le concept, on lui dit c'est génial.
Ça fonctionne par des grandes arches.
Voilà, des grands arcs narratifs. Et c'est le moment où, en fait, il dit. Sauf que mon personnage infiltré, j'ai besoin de plus d'un épisode pour raconter cette histoire. 8, 10, peut-être 12. Et là, à chaque fois, les chaînes disent non. Parce que les gens ne vont pas se souvenir. Et donc, ils gardent cette idée-là pendant 2 ou 3 ans. Et à chaque fois que ça change d'exécutif, ils retournent et ils repitchent jusqu'à tomber sur, je crois que c'est Kim Masters, je ne sais plus si c'est lui. Mais en tout cas, ils tombent sur un président de chaîne qui dit c'est l'idée la plus cool que j'ai jamais entendue.
Paradoxe total dans une télévision qui, depuis la fin des années 70, voire même un peu avant, avec Peyton Place, met en place du soap.
Complètement.
Où ça se suit. Ouais. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger l'importance de ces séries de prime time, parce que c'est ça aussi qui permet à la série de feuilletonner. Et puis j'ajoute que même Hill Street Blues, finalement, c'est une série qui feuilletonne énormément avec des grandes arches et des séries chorales. Le voilà, ce logo dont on parlait. C'est-à-dire, effectivement, la pile de feuilles qui s'envole. Et qui atterrit sur une pile et qui forme le C le C de Canal.
Et en fait, ce logo, il voulait le faire parce qu'il était à un moment de sa carrière où on commençait à se référer à lui comme un mogul. Mogul, enfin, cette espèce de businessman. Et lui, son truc, c'est l'écriture, vraiment, depuis toujours. Et la question, c'était comment faire en sorte que les gens l'identifient d'abord comme un scénariste, plus que comme un producteur, plus que comme un showrunner, ou voilà. Et donc, ils ont eu l'idée de ça. Et ce jingle, enfin, ce logo-là qu'on voit à la fin de chaque épisode, et qui est mis à jour d'année en année. C'est-à-dire que rien qu'en voyant sa tête dans le jingle, on sait qu'on est plutôt à milieu des années 80, fin des années 80. C'est voilà.
Et ça participe évidemment à ces fameuses signatures de producteurs qu'on connaît. Alors, il y avait eu dans les années 70 le petit chat de Mary Tyler, des séries de Mary Tyler Moore de MTM. Et puis, il y aura aussi le Bad Robots de DJ Abrams, par exemple, pour citer que ça. Il y en a plein d'autres.
Le violon du père de Steven Bochco dans son jingle. Oui, chacun avait un peu sa marque.
Mais c'est le seul qu'on voit à l'écran. Et donc, nous, enfin, il me semble.
Oui, je crois que c'est le seul qui vraiment se met en scène, en fait.
Ouais. Il y a une autre façon de parler des séries de Bochco, mais aussi de Canal. On va écouter un son, peut-être. On va écouter ça. C'est parti pour le premier. Et puis un deuxième, peut-être. Allons-y pour le deuxième, il va se partir. La signature, on parlait visuel, mais la signature musicale, à la fois des thématiques, des thèmes composés pour les séries, voire parfois des titres qui ont été repris, mais notamment son travail incroyable qui a été fait avec l'immense Mike Post.
Avec Mike évidemment. Post. Alors, le premier qu'on a entendu, Barretta,
c'est pas lui. Ben non,
c'est Dave Grusin.
Évidemment.
Mais effectivement, quasiment toutes les séries, en tout cas, à partir du moment où il a sa boîte de production indépendante, peut-être à part Jump Street, faudrait vérifier, mais sinon c'est Mike Post. Mike Post et Pete Carpenter dans un premier temps, puis au décès de Carpenter, Mike Post tout seul, qui va signer toutes ces séries. Ouais.
Et que vous connaissez Mike Post, hein, si vous suivez notamment les franchises de Law & Order, New York Unité Spéciale, le fameux Tintin, ouais. C'est lui qui l'a créé, marque évidemment déposée, mais c'est vrai que Canal et Mike Post, ça fait partie de ces grandes histoires de tradition. Je pense à Lynch et Badalamenti, enfin voilà, il y a des synergies qui se mettent en place entre scénaristes et compositeurs.
Oui, il y a un vrai truc, leur rencontre sur une plage, enfin, je sais pas si c'est du storytelling, mais ils se sont rencontrés sur une plage, enfin, ils se battent la première fois qu'ils se sont rencontrés, enfin, c'est complètement dingue, jusqu'à ce qu'ils commencent à discuter et Post n'était pas encore dans la musique de télévision. C'est d'abord quelqu'un qui a produit des albums de rock, qui a composé des titres en fait de pop musique. Et en fait, Post dit qu'il doit, il a une carrière. Je crois qu'il n'y a aucun compositeur qui a fourni autant de thèmes et autant de séries que Mike Post. Pourquoi ? Parce que en fait, Mike Post est quelqu'un de très loyal et il travaille avec des producteurs qu'ils sont également. Et en fait, ces producteurs, c'est Steven Bochco, c'est Stephen G. Cannell et c'est Dick Wolf. Donc forcément.
Ça limite un peu le champ des possibles. Et quand vous travaillez pour tout cela, en général, vous êtes bien occupé pour l'année à venir.
Exactement.
C'est important. Il y a quelqu'un en France qu'on connaît dans ce métier et qui a eu la chance d'être formé en plus avec Mike Post.
Et qui a même composé quelques tracks pour un épisode de NYPD Blue qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer.
C'est Christophe Lapinta.
C'est Christophe Lapinta.
Qui est compositeur de série qu'on salue. Cette espèce de 6 degrés de séparation où on se dit qu'en touchant Lapinta, on touche un peu Mike Post. C'est assez fascinant. Et c'est un de nos grands compositeurs de fiction télé en France. C'est intéressant. On a envie de s'approcher évidemment du Saint Graal. C'est des gens qui ont été très très rares parce que Canel encore, on le voit et on l'a revu après dans d'autres fictions, mais Mike Post, très peu d'interviews, très peu de présence, si ce n'est en travail. Donc ça nous manque quoi.
Il y a un vrai doc à faire sur Mike Post et l'influence qu'il a eue sur les compositeurs, parce que via... Il y a Christophe Lapinta, on parlerait beaucoup mieux que moi, mais il y a je crois que c'est la fondation Pete Carpenter, où justement il a fait venir des jeunes compositeurs pour les former, en fait, à la musique de télévision, parce que c'est un exercice très particulier, composé pour la télévision et des séries notamment.
On aura l'occasion, je pense, de consacrer une
Ça
émission
vaut le coup parce qu'il
à
a
MyPost, parce qu'il y a
plein de choses à
énormément de
raconter,
choses à
Christophe.
dire. Évidemment, on voulait mentionner un petit peu du parcours pour en savoir un petit peu plus sur Stéphane J. Canel. Il y a un seul livre qui est sorti, je le montre, même s'il n'est pas forcément très complet, mais il existe sur Stéphane J. Canel, avec cette, évidemment, photo célébrissime. Parmi la magie de la télévision américaine, et on va voir ça pour illustrer aussi le parcours de Canel, il y a aussi ces fameuses publicités qu'on pouvait voir notamment dans le TV Guide, ces fameuses publicités pour les séries. J'en ai sélectionné quelques-unes, je crois, pour mentionner un peu les séries de Canal. Alors ça, c'est évidemment une publicité pour l'agence Tourisme. Elles sont quand même magiques, ces affiches publicitaires, hein. Quand tu les vois, il y en a des centaines et des centaines, voire des milliers sur toutes les séries des années jusqu'à la fin des années 2000, un peu. C'est quand même
Et celle-là
génial.
est vraiment intéressante parce que visiblement c'est pour le pilote, puisqu'on voit que Faceman, c'est-à-dire le futé, n'est pas interprété par Dirk Benedict. Tu allais peut-être le dire, Marc,
Mais non, mais bravo, bien joué.
par Tim Dunnigan qui n'a fait que le pilote et qui a été remplacé ensuite par.
Je vous avais dit qu'il connaissait
Non, non.
Canel. Non, mais là, bravo. Franchement, c'est assez hallucinant. Voyons voir une autre publicité, Rockford, que je voulais mentionner, James Garner. Vous le connaissez, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, les amis, dans l'adaptation cinéma de Maverick, aux côtés de Mel Gibson, puisqu'il jouait son père dans la version ciné.
Et dans les auteurs qui se sont lancés, parce que Canel est pas tout seul, il écrit pas tout seul, au contraire, il est toujours entouré. Et dans les auteurs qui ont vraiment grandi aussi avec Rockford Files, c'est David Chase qui
Oui,
fera ensuite
les
les
Sopranos.
Sopranos et qui a vraiment pas appris le métier, mais en tout cas profité de l'expérience Rockford pour écrire de nombreux épisodes.
Mais d'ailleurs, la particularité des grands auteurs américains, c'est qu'ils commencent tous
Ouais.
à se faire les armes, alors soit en travaillant comme scénariste, soit parfois en retravaillant les scénarios des autres. Je crois que Boschko, comme Canel d'ailleurs, ont travaillé notamment sur l'homme de fer un petit peu. Je crois que Boschko retravaille même le pilote de l'homme de fer pour le
Et
lancer, il me semble.
on voit le nom de Bochco sur beaucoup de séries où il est story editor. Banachek, je crois qu'il a
Ouais,
repris le pilote de
avec Georges
Banachek,
Peppard.
déjà avec George Peppard. Et là où Canel, lui, pour le coup,
Vraiment
il a
scénariste.
travaillé sur Ironside, mais deux épisodes de la saison 4. Non, je ne connais pas ça. Non, je ne connais pas ça
Non
par cœur.
mais.
J'ai juste vérifié avant de venir parce que je me suis dit, on va parler de Canel, donc checkons un peu deux, trois trucs. Mais non, non.
C'était la particularité de la série Chérie, c'est que ça citait les épisodes et les
Alors.
références. Donc il en a emmagasiné. Et une dernière, je voulais voir, parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure, c'est évidemment l'affiche de Wise Guy. Parce que ça, voilà, c'est une série qui a été très importante qui est magnifique, avec Ken Wall, pardon, dans le rôle principal de ce flic qui va s'infiltrer dans la mafia pour la faire tomber de l'intérieur.
Sans doute son plus grand succès critique avec Rockford Files, je pense. Je pense que
Ouais.
c'est les deux qui, quand les critiques s'intéressent aux séries télévisées, je pense que ce sont celles les deux qui ressortent avec Profit.
Avec Profit. Alors, je voulais mentionner parce
Pardon.
qu'effectivement, non, mais parce que Wise Guy préfigure un peu sur les networks cette fameuse télévision qu'on va connaître après plutôt sur les chaînes du câble, avec ces fameux anti-héros américains que sont évidemment les héros de Oz, des Sopranos, de Breaking Bad,
The Shield, tout ça.
sauf The Shield, sauf que là, c'est sur les networks, donc soumis à la pression publicitaire, des censeurs, etc. Et c'est un exercice très particulier. Wise Guy va plutôt bien réussir, mais il y aura une autre tentative, c'est Profit, qui est un petit bijou, mais qui n'a connu que 8 épisodes et que seulement 4 ont été diffusés.
Ouais. 4 aux États-Unis, 8 chez nous.
Un petit peu
Pour
l'ancêtre
écho.
de House of Cards, finalement. En tout cas, une nouvelle version,
Il y a
puisque
des
je
points
crois que la
communs.
version anglaise date des débuts des années 90. Voilà, Profit qui est vraiment incroyable. Il y a un coffret avec cette bande. Je me souviendrai toujours de ce teaser où il y a la toile
L'araignée,
d'araignée qui arrive, et puis longuement, l'araignée tisse sa toile pour emprisonner ses ennemis. Et là, vous avez Profit qui écrase l'araignée en disant amatrice, amateur. Et
amateur.
ça me fait penser à cette scène du quatrième mur où, dans le pilote, le héros de Frank Underwood de House of Cards entend un accident, un chien qui est renversé, et où il le brise la nuque pour l'achever. On termine avec la photo de Canel derrière toi. C'est assez saisissant, l'empreinte que cet auteur aura eue sur la télévision américaine. On le redécouvrira évidemment bientôt dans d'autres séries, puisqu'il aura son propre rôle dans Castle, où il joue un auteur, parce que c'est aussi un auteur de polar. Incroyable auteur de polar, mais en télévision, c'est un des grands auteurs qui ont façonné la télévision des années 80 et qui ont façonné le public qu'on est.
Oui, bah on ne peut pas. Enfin, toute ma génération et je pense aussi celle d'après, on Je pense à 21 Jump Street aussi, qui a été un énorme succès. Personne n'a pu passer au travers, en fait. Et
Et des
donc,
séries qui n'ont pas marché, qui aussi étaient
beaucoup,
très
Crash
importantes,
beaucoup.
non mais qui aussi étaient très importantes, et que les gens se souviennent. Moi, je me souviens de Jesse Starbuck, par exemple, que j'aimais beaucoup, qui était.
J'ai jamais vu ça.
J'avais jamais.
Je connais l'existence de ça, mais j'ai jamais
C'était vraiment génial.
regardé.
Gigi Starbuck, et puis Sonny Spoon, qu'on voyait dans
Oui,
La Nuit est
Sonny
à vous,
Spoon, ouais.
évidemment, parmi toutes ces
Ouais, Sonny
séries-là.
Spoon, c'est aussi
Stingray.
une série. Ah, j'aimais beaucoup Stingray.
Moi, j'aimais pas trop, mais j'accrochais pas, mais ça passait dans
C'est
les.
le concept du type qui arrive, qui rend service et qui dit en échange, je demande juste qu'à un moment donné, je vais vous appeler, vous devrez me rendre service. Et il fonctionne comme ça d'épisode en épisode, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas tout ça. Encore une fois, il y a un petit côté Lone Ranger, j'arrive dans un endroit, je règle le problème, je m'en vais. Puis
Et un
honnêtement, il y a
petit
eu.
côté finalement aussi Rockford, finalement, avec cette condition sine qua non pour remplir le contrat qu'on va
Ouais,
faire.
mais on est vraiment plus. Il a cette voiture, une Stingray d'ailleurs, je crois,
Magnifique, cette
qui
belle voiture.
part sous le soleil couchant à chaque fin d'épisode. Mais ça fait partie des séries qui. Voilà, Gigi Starbuck, je pense. Enfin, apparemment, c'est plutôt réussi. Stingray, c'était plutôt réussi
C'était
aussi.
assez anecdotique, Gigi Starbuck, hein, faut quand
Mais
même le dire.
il a d'autres. Je me souviens d'une série qui s'appelait Too.
Tout qui était avec Michael Easton.
Ouais, c'est ça. Où là, bon, c'était très, 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 très le fugitif, si ce n'est que le tueur était le frère jumeau maléfique
Alors,
du
ça
tueur.
reprenait le concept du fugitif, mais ça reprenait aussi le concept du soap, puisque Michael Easton était une star de soap opéra aux États-Unis, et ça reprenait le concept du jumeau maléfique du
Oui, c'est
soap,
ça.
qui est que bah, qu'est-ce que vous faites quand celui qui veut vous envoyer en taule, c'est votre frère jumeau, mais qui n'a pas d'existence légale.
Voilà, de là en faire une série avec de multiples. Voilà, je ne
22
sais pas si ça
épisodes.
22 épisodes, ça tenait vraiment la
Ça ne tenait pas
distance,
forcément, mais j'avoue
mais
que
voilà.
le concept
C'était
était
Canal, quoi.
intéressant.
Canal, ça sortait, et je crois qu'au final, si on compte, on est à plus de 40 séries. Qui a vendu plus de 40 séries? Bah,
Greg
même
Berlanti.
Berlanti. Non, mais je ne sais pas Berlanti s'il a
Non, je
vendu
crois pas
40
non
séries.
plus.
Je suis pas
Je crois
sûr.
pas qu'on y soit. En tout cas, Canal
Pas
a
sûr.
laissé une empreinte indélébile dans la télévision américaine. Et je remercie vraiment Elephant de prendre soin de rééditer ces séries parce que les plateformes de streaming, c'est bien, mais malheureusement, pour l'instant, ces séries n'y ont pas leur place. Et puis avoir ces beaux objets avec du soin apporté à l'édition, avec du soin apporté au packaging, c'est hyper important. Voilà, on revoit l'édition Blu-ray du Rebelle.
Toujours
Profitez bien parce que 1000 exemplaires
pas
seulement pour cette édition.
Blu-ray.
Toujours pas Blu-ray
Non,
d'ailleurs.
toujours pas.
Toujours pas Blu-ray édition parce que je suis tellement habitué à ce qu'ils sortent en Blu-ray. Là, c'est du DVD aussi. Que voilà, ils le font pour Law and Order, effectivement, Blu-ray DVD. Édition DVD magnifique. Et c'est important que ce support existe et qu'on puisse redécouvrir ces séries. Tu ne l'auras pas. Elle est disponible après. Ce sera un packaging certainement beaucoup plus traditionnel. Donc profitez si vous aimez le Rebelle pour vous replonger dedans. Et puis Riptide. Et puis 200 $ plus les frais. Et puis toutes les séries de Canal. Jusqu'à Profit que je vous invite vraiment à découvrir. Il y a une excellente édition DVD en France. En attendant, pour retrouver le travail du Canal français, ce sera dans La Manière Forte très bientôt, on l'espère,
Très bientôt.
avec l'épisode 2 et 3, je crois, qui
Ouais.
sont en production chez
Exactement.
France Télévisions. Donc, merci Lionel Olanga
Merci
d'avoir été avec
Alexandre.
nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau numéro de la Loi des séries. Et restez bien jusqu'à la fin, pour une fois, du générique de la Loi des séries. Il y a une petite surprise pour vous, regardez.
Thank you.